Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Voilà, nous démarrons avec, nous sommes aujourd'hui dans le monde du travail, le licenciement, on parle du licenciement, quelles sont les fautes, disons, qui peuvent conduire au licenciement. Nous savons que l'employeur et l'employé sont liés par un contrat de travail. Cependant, celui-ci peut être rompu lorsque les deux parties n'émettent plus sur une même longueur d'onde ou pour d'autres motifs. Cependant, quelles sont les fautes ou les raisons à la base du licenciement d'un travailleur? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Maître Dominique Amandou, encore une fois bonjour.
Bonjour Jody, et bonjour à tous les auditeurs des Radio Okapi.
Voilà, Maître, qu'est-ce qu'on entend par licenciement?
Merci beaucoup Jody, nous précisons que le licenciement est la résiliation d'un contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Et ce licenciement peut être dû à des motifs de plusieurs ordres.
Oui, alors quels sont les différents types de licenciements?
Selon la législation congolaise, on peut rencontrer des cas de licenciement individuel lorsque la mesure est prise à l'endroit d'une personne ou des licenciements massifs. Donc ce sont les deux types de licenciements que l'on peut rencontrer en fonction des personnes qui sont visées.
Il semble qu'il y a aussi des licenciements pour motif personnel, soit le travailleur a commis une faute grave, ou soit à cause d'une insuffisance professionnelle, l'employeur peut le remercier.
Effectivement, nous avons dit que nous pouvons rencontrer des cas de licenciements individuels ou massifs. Dans les cas de licenciements individuels, les motifs de licenciement peuvent être dictés par, soit par l'aptitude professionnelle de l'employé ou sa conduite. Et les cas de licenciements massifs sont souvent rencontrés pour des motifs de fonctionnement de l'entreprise ou des raisons d'ordre économique.
Et ici, par exemple, le travailleur, pour une raison de maladie, n'est plus apte, capable de travailler pendant un long moment. Est-ce que ça peut être une raison de le mettre à la porte?
Lorsque l'inaptitude de l'employeur pour des raisons de santé se prolonge, prend beaucoup plus de temps, au-delà de 6 mois, l'employeur peut avoir la latitude de résilier son contrat de travail conformément à la loi.
Mais est-ce qu'à la longue, on va continuer à lui payer quelque chose?
Non, lorsque le contrat est résilié, il n'y a plus d'obligation entre l'employeur et l'employé, mais il peut se faire que l'employé se retrouve dans cette situation-là suite à une maladie professionnelle ou suite à un accident de travail.
Oui.
Dans ces cas, il est pris en charge par la sécurité sociale.
Voilà, il est pris en charge par la sécurité sociale. Mais mettons-nous dans les cas où il y a mésentente entre les collègues dans un travail. Est-ce que ça peut conduire au licenciement?
Bon, la mésentente peut être due à une situation fortuite, à une situation simple qui peut être gérée. Mais lorsque la mésentente peut amener à des actes d'intimidation, des menaces, des coups et blessures, d'injures, cela constitue un manque de comportement digne et courtois dans le milieu du travail, et l'employé qui se rend coupable de tels agissements peut subir les licenciements ou peut voir son contrat être résilié par l'employeur.
Voilà, vous avez des questions, des réactions, composez le 081-890-6394 ou écrivez-nous à notre adresse e-mail service@radiookapi.net. Et vous avez parlé des licenciements, vous décrivez quelles sont les fautes qui peuvent être à la base d'un licenciement. Alors prenons par exemple un licenciement en groupe. Quelles sont les raisons, les différentes raisons qui peuvent soutenir cette action?
Dans ce cas, nous nous retrouvons dans ce qu'on appelle les licenciements massifs. Généralement, il peut être dû soit à une réorganisation ou aux impératifs de fonctionnement de l'entreprise qui fait qu'à la suite de la mise en place de nouvelles mesures, de nouvelles méthodes et de nouveaux organes, certains emplois se sont trouvés supprimés. Ou lorsque l'entreprise est en situation économique difficile, c'est-à-dire que l'entreprise n'arrive plus à subvenir à toutes les charges et que le poids d'employés, c'est-à-dire les charges en ce qui concerne les salaires et tous les autres frais, ne permettent pas à l'entreprise de fonctionner correctement. Là, on peut procéder à un licenciement massif pour des raisons économiques. La loi prévoit que pour pouvoir procéder à cela, cette situation doit être constatée par un inspecteur du travail et cela doit être autorisé par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale après que ce dernier se soit rendu compte de la réalité de la situation.
Alors, on entend souvent dans la ville, certains parlent de l'assainissement, du licenciement. Est-ce que ça parle toujours de la même réalité?
En principe, ça revient quand même, parce que quand on parle de l'assainissement, c'est-à-dire on veut réduire, généralement, quand on parle de l'assainissement, c'est-à-dire qu'on veut réduire les effectifs oui. pour pouvoir mettre de l'ordre dans les charges de l'entreprise. Donc, ça revient à dire la même chose. Et la loi détermine les modalités pour pouvoir procéder à cela. C'est-à-dire qu'on doit d'abord tenir compte de l'aptitude professionnelle des employés, ce qui veut dire que les employés qui ont des aptitudes ou des capacités moindres seront les premiers visés. Mmh. En plus de cela, on voit l'ancienneté, c'est-à-dire à aptitude égale, les travailleurs de moindre ancienneté, donc les moins anciens, seront d'abord visés. Et puis après, on voit les charges familiales. Lorsque les aptitudes professionnelles sont égales, l'ancienneté, la même chose, on commence par licencier les travailleurs qui ont moins de charges sociales, c'est-à-dire quand dans le calcul de l'ancienneté, un travailleur marié a un an de plus et a aussi un an de plus par enfant à charge. Et lorsqu'on fait toute cette sommation, on détermine qui se retrouve dans la catégorie qui a le moindre temps d'ancienneté, et ce sont ceux-là qui seront visés le premier.
Alors, avant de procéder à ces licenciements, il faut informer au préalable l'employé ou les employés concernés.
D'abord, l'employeur qui envisage de prendre une telle mesure doit informer la délégation syndicale, qui doit se rendre aussi compte de la réaction, saisir l'inspection du travail qui doit mener des enquêtes et vérifier la situation et demander l'autorisation du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour pouvoir, avant de procéder au licenciement. Lorsque l'employeur n'a pas respecté ses principes et ses règles, tout licenciement opéré est considéré comme abusif.
Donc, il doit obtenir au préalable
l'autorisation du ministère du Travail.
Voilà, des questions, des réactions au 081-890-63-94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Nous avons en ligne Ignace Ndala, il nous appelle depuis Kolwezi au Katanga. Bonjour.
Bonjour, bonjour, auditeurs. J'ai deux préoccupations.
Oui.
La première préoccupation porte sur la réclamation des salaires. Les travailleurs réclament le salaire, peut-être pour un retard de paiement ou pour des raisons de commodité. Hein. Donc, il y a le salaire qui est souvent moins satisfaisant. Ils réclament qu'on puisse hausser. Est-ce que ça peut être un motif de licenciement? Et puis, la deuxième préoccupation, pour un délégué syndical, à quelles conditions il peut être menacé de licenciement? C'est dans toutes les conditions quand il joue son rôle de courroie de transmission de cahier de charge de travailleurs.
Merci, Maître Dominique.
Merci beaucoup, Ignace. Nous précisons que les réclamations, même les plaintes adressées contre l'employeur à l'inspection du travail ne peuvent pas être des motifs de résiliation ou du contrat ou des licenciements. Un tel licenciement est abusif. Et l'exercice de l'activité syndicale, particulièrement en ce qui concerne les syndicalistes, lorsque cela est fait dans le respect des normes, en dehors des heures de service ou pendant les heures de service, mais avec l'autorisation de l'employeur, cela ne peut pas être considéré comme un motif de licenciement ou des résiliations du contrat de travail.
Peut-être il est trop gênant pour l'employeur, alors un jour, un beau matin, vous arrivez au bureau, voilà, les lettres sont là, vous n'êtes plus là.
Non, là, il s'agit d'un licenciement abusif. La loi protège les syndicalistes et c'est pour cela que lorsqu'il y a des faits qui leur sont reprochés Dans le cadre de l'exercice de l'activité syndicale, l'employeur doit d'abord saisir l'inspecteur du travail et ne peut pas prendre de lui-même des mesures aller jusqu'à la résiliation du contrat de travail. Ça, c'est lorsqu'il le fait, il commet un licenciement abusif.
Nous avons en ligne Sami Mbangu depuis Lubumbashi. Bonjour Sami.
Bonjour monsieur.
Quelle est votre question?
Merci pour la parole. Je salue Maître Gué sur le plateau. La plupart d'entreprises aujourd'hui utilisent des temporaires. Je voulais un peu savoir si la faute commise par ce dernier, si on peut le qualifier de faute professionnelle. La deuxième question, nous avons connu un cas à la GECAMINE avec le partant volontaire. Est-ce qu'on peut le qualifier de licenciement abusif? Merci.
Merci beaucoup. En ce qui concerne les temporaires, c'est-à-dire des personnes qui exercent leur travail pour un délai déterminé, cela peut être considéré comme un contrat à durée déterminée. Et lorsque l'on commet des fautes dans l'exercice de ses fonctions et en milieu de travail, cela peut être considéré comme faute professionnelle qui peuvent donner lieu même à la résiliation du contrat lorsque les faits sont graves. En ce qui concerne les départs volontaires, si cela est dû à la situation économique de l'entreprise et qu'il y a eu autorisation du ministère du Travail pour ce faire et qu'il y a accord entre parties, il s'agit d'une résiliation mutuelle. Donc on a mis fin au contrat de manière mutuelle et c'est là pour des besoins économiques. Il ne s'agit pas vraiment d'un licenciement, il s'agit là d'un accord parce que le licenciement veut dire que l'employeur prend l'initiative et met fin au contrat de travail des employés pour des raisons quelconques. Mais dans les cas de départ volontaire, il s'agit d'une démission qui peut être négociée avec l'employeur ou un accord entre les deux parties pour pouvoir mettre fin au contrat de travail au regard de la situation soit personnelle de l'employé, soit de la situation de l'employeur.
Voilà, mais prenons les cas de partant volontaire. Dans certaines entreprises, l'employeur peut te pousser à la sortie. Il ne te dit pas que tu dois partir, mais les conditions, les modifications apportées te poussent soit à démissionner et à partir bien avant.
Non, mais lorsque l'employeur te pousse, c'est-à-dire il y a des menaces ou il y a des situations qui ne respectent pas la législation, oui. Dans ces cas, l'employé se trouve aussi en situation de pouvoir démissionner et là il peut procéder à la résiliation du contrat pour faute lourde de la part de l'employeur. Cela est prévu aussi par la loi. La faute lourde n'est pas seulement à charge de l'employé, mais l'employeur aussi peut commettre ou poser des actes qui sont constitutifs des fautes lourdes et qui peuvent amener son employé ou ses employés à résilier le contrat et cela est demander réparation pour les préjudices subis.
Mais un licenciement fondé sur la race, la religion ou une opinion politique, ça arrive aussi le plus souvent. Est-ce que pour un tel licenciement, c'est à classer en compte de licenciement abusif
hein? Effectivement, la loi est claire là-dessus et la loi précise que les raisons liées à la race, à la couleur de la peau, au sexe, à la religion, à l'opinion politique, donc cela ne peut aucunement constituer un motif de licenciement. Tout licenciement basé ou fondé sur ces motifs est considéré comme un licenciement abusif.
Et si l'employeur a des soupçons ou des doutes sur l'honnêteté de l'employé, est-ce que ça peut être un motif pour le faire partir?
Bon, les doutes, en droit, on dit que les doutes profitent à la personne qui est accusée ou qui est poursuivie. L'employeur ne peut pas fonder une décision sur des doutes. Si l'employeur soupçonne une situation, l'employeur est en droit de mener des enquêtes pour se rendre compte de la véracité de la situation et agir en âme et conscience. Mais une décision fondée sur les doutes n'est pas valable.
Voilà, nous avons en ligne Rabbi Kioulou, qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, Yodi.
On vous écoute, Rabbi.
Oui, bonjour, je salue l'invité Dominique. Et permettez-moi, Yodi, s'il vous plaît, de faire un câlin à Fabrice Pololou, notre gagnant. Monsieur Dominique, j'ai une question. J'ai eu de savoir. C'est là mon prof de législation sociale qui m'a appris à lire ici. Il m'a parlé des contrats d'apprentissage qui peuvent être suspendus à tout moment lorsqu'il intervient certains éléments tels que la maladie, l'accident, la grossesse et l'accouchement. Maintenant, d'après lui, cette suspension des contrats n'est pas la fin des contrats, mais plutôt l'interruption. Est-ce que cela pourra-t-il arriver dans un contrat de travail? Mais c'est une toute petite question bonus, c'est celle de savoir quels sont les moyens ou les canevas à faire pour remplacer quelqu'un qui n'a jamais été licencié ou retraité, mais qui est mort dans son poste de travail et qui voudrait son fils. Comment faire pour le remplacer automatiquement, selon les lois de travail?
En principe, en ce qui concerne le contrat d'apprentissage est différent du contrat de travail. Les principes qui sont applicables au contrat d'apprentissage ne sont pas applicables automatiquement au contrat de travail. En ce qui concerne les cas des maladies ou d'autres circonstances, dans le droit du travail, on prévoit la suspension du contrat. Le contrat peut être suspendu lorsqu'il y a des causes qui fait que l'une des parties ne soit pas à mesure de fournir ses prestations comme il se doit. Le contrat peut être suspendu pour un temps et non résilié. Et lorsque, dans les délais légaux, cette circonstance cesse, la personne reprend son travail, reprend ses fonctions normalement. On ne peut pas résilier un contrat de travail pour cause des maladies après une, deux semaines. Lorsque cela se prolonge, on peut aller jusqu'à la résiliation pour cause de grossesse ou d'accouchement. Cela est strictement interdit par la loi. En ce qui concerne votre deuxième préoccupation, nous précisons d'abord, comme vous êtes juriste, je l'ai senti, le contrat de travail est un contrat in situ personae, comme on dit, c'est-à-dire un contrat signé en considération de la personne. C'est-à-dire, on ne succède pas automatiquement à un contrat de travail. Et il y a des entreprises qui prévoient les remplacements des personnes décédées par leurs épouses, leurs enfants. Cela est prévu dans des conventions collectives. Mais ces remplacements ne veulent pas dire succession au contrat du travail du défunt. C'est-à-dire, on engage un membre de famille avec un autre contrat en fonction de son profil et en fonction des responsabilités qu'on va lui accorder. Il n'y a pas de succession à un contrat de travail. C'est un contrat qui est signé en considération de la personne.
Voilà, Winston Bukundu depuis Isiro. Bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité qui est sur le plateau.
Votre question?
Je voudrais savoir, un domestique qui est lié à un contrat de travail verbalement peut saisir l'inspecteur du travail s'il trouve qu'il est révoqué illégalement?
Merci beaucoup. Nous précisons d'abord que dans le cadre du champ d'application du code du travail, les domestiques et toutes les personnes qui font des travaux dans les ménages et tout ça ne sont pas soumis au code du travail. Il y a une législation particulière pour eux.
Voilà. Faustin Capella, depuis Kisangani, bonjour.
Bonjour. Oui, monsieur le juge, une question à poser à l'invité.
Oui.
Oui, ma question est la suivante. J'ai passé...
Wow, malheureusement, il y a une coupure. On pourra peut-être le retrouver, Faustin Capella, plus tard. Alors, Maître Dominique, est-ce que toutes les fautes peuvent-elles justifier les licenciements? Nous savons qu'il y a des fautes simples, la faute grave et la faute lourde.
Effectivement, toutes les fautes ne peuvent pas justifier les licenciements. C'est pour cela même que dans les mesures disciplinaires, dans les règlements d'entreprise, dans des conventions, dans des conventions collectives, on prévoit une certaine hiérarchisation des sanctions. Il y a des avertissements, il y a des blâmes, il y a des suspensions, et cela peut amener jusqu'à la résiliation du contrat ou au licenciement. Mais pour les fautes lourdes, la loi précise que les fautes lourdes peuvent donner lieu à un licenciement immédiat, même sans préavis. Donc toutes les fautes ne peuvent pas donner lieu au licenciement. Mais lorsqu'il s'agit des fautes légères qui se répètent plusieurs fois, cela peut amener à la résiliation du contrat de travail, parce qu'on se rend compte qu'on est en face d'un employé qui ne s'amende pas. Cela peut, après plusieurs fautes accumulées, donner lieu à un licenciement.
Et que peut être une faute, l'exemple d'une faute lourde?
L'exemple de faute lourde, la loi...
Le vol.
Le vol, c'est un acte qui démarque d'improbité, qui peut donner lieu à des fautes lourdes. Mmh. Le harcèlement sexuel d'un employé sur ses collaborateurs ou sur ses subalternes, c'est une faute lourde. Mmh. Des coups et des blessures, des injures, des voies de fait, des menaces, des intimidations. Donc ça, ce sont des actes d'improbité qui peuvent donner lieu à la résiliation du contrat de travail. Il peut s'agir aussi d'un fait volontaire de l'agent qui cause un préjudice matériel à l'entreprise ou d'une imprudence qui expose l'entreprise ou les autres collègues à des risques sur les plans de sécurité. Donc, cela peut être considéré comme des fautes lourdes.
Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo et la Fondation Hirondelle. Avec le soutien des gouvernements de Suisse, de Grande-Bretagne, de France, de Suède, d'Allemagne et de Belgique.
Yves Ilunga nous appelle de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama, bonjour aussi à notre invité.
Oui.
Oui, j'ai une question à lui poser. Je travaille déjà quelque part il y a maintenant 2 ans.
Oui.
Juste au début, j'ai signé un contrat de 3 mois. Mais jusqu'à ce jour, je ne connais pas mon statut. Quelle est la procédure à suivre?
En principe, si vous avez signé un contrat de 3 mois, je comprends qu'il s'agit là d'un contrat à durée déterminée. Lorsqu'à l'expiration des 3 mois, l'employeur ne vous a pas notifié la résiliation ou la fin de ce contrat et qu'il a toléré que vous continuez à travailler, il s'agit là d'une reconduction tacite de ces premiers contrats. Et lorsque cette reconduction arrive encore au bout, c'est-à-dire que le premier contrat à durée déterminée a été renouvelé une fois, et pour la seconde fois, si le délai de 3 mois expire et que vous continuez à travailler, votre contrat, selon la loi, est converti automatiquement en contrat à durée indéterminée, au sens de la loi.
Mmh. Didier Abio, depuis Gbadolité. Bonjour.
Bonjour, je dis Kachem.
Quelle est votre question?
Oui. Est-ce que l'état d'ivresse à répétition au milieu du travail peut amener une personne à la résiliation de son contrat ou au licenciement?
Effectivement, cela est considéré comme un acte immoral en milieu de travail. On ne peut pas se présenter
ivre, au
travail ivre. Comment on va travailler? On a même perdu la lucidité et la raison en état d'ébriété. Cela peut être considéré comme cause de licenciement.
Faustin est de nouveau en ligne depuis Kisangani. Bonjour.
Bonjour.
Oui.
Ouais. J'ai une question à poser à l'invité de l'émission d'aujourd'hui.
Oui.
Ouais, ma question est la suivante. J'ai passé 2 ans dans un organe de presse local ici à Kisangani. Après un certain moment, on avait fait un contrat, mais on nous dit d'aller rester à la maison sans pour autant nous dire le motif qui nous a été le faire reprocher. J'aimerais savoir, donc, demander à l'invité du jour si je vais aller dans un premier temps pour aller me plaindre.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Si vous avez des choses à reprocher à votre employeur, il faut d'abord commencer par l'inspection du travail. La première des choses à faire, c'est de saisir l'inspection du travail, du ressort où le travail, où vous exercez votre fonction, pour vous plaindre contre votre employeur. Donc c'est ça la première démarche qu'il faut faire.
Mais tout employeur est quand même tenu à signifier à l'employé le motif pour lequel on lui demande de rester à la maison.
On doit notifier en principe que votre contrat est suspendu pendant telle période pour tel motif. Le faire comme ça, c'est vraiment de l'arbitraire, ce n'est pas légal.
C'est pas légal. Mais il y a de plus en plus d'entreprises, par exemple, qui mettent les agents à la porte. Après ça, on vous dit, si vous voulez, on peut vous récupérer en sous-traitance et puis votre salaire sera divisé par 3.
Bon, là, il s'agit d'une situation illégale. Lorsque une situation se présente qui fait que l'employeur ne peut pas être en mesure de supporter les charges, l'employeur doit mettre fin au contrat de travail des employés correctement et conformément à la loi. Mmh. Et lorsqu'il y a d'autres opportunités, ces employés sont préférables. On peut leur proposer des nouveaux contrats dans des nouvelles conditions. Mmh. Mais cela ne peut pas se faire automatiquement et dire à la personne, maintenant, vous devenez sous-traitant, votre employeur, votre salaire est divisé par deux. Non, ça c'est illégal. On doit d'abord mettre fin correctement au contrat en payant à l'employé concerné toutes ses indemnités comme il se doit. Mmh. Et si on veut, si les opportunités se présentent, on lui propose un nouveau contrat. S'il est d'accord, il les signe et recommence le travail.
Voilà. Il y a Ignace Ndala Akolozi qui pose cette question. Que dire du congé technique qui perdure?
En principe, le congé technique, ce n'est pas un terme légal. Ce n'est pas un terme consacré par la loi. Donc, c'est une situation que l'on se retrouve comme ça. On dit on est en congé technique. Il s'agit clairement d'une suspension du contrat de travail. C'est-à-dire que le contrat de travail est suspendu. Mmh. Et lorsque ça prend plus de temps, l'employeur peut prendre des mesures et résilier correctement le contrat pour permettre à l'employé de ne pas continuer à attendre et à prendre d'autres engagements ailleurs.
Voilà,
cette situation-là, c'est en fait une situation de suspension de contrat de travail.
Mmh. Wilson, depuis Isiro, un domestique a un contrat verbal, un domestique a un contrat verbal, peut-il contacter un inspecteur de travail s'il est licencié illégalement?
Nous avons dit tout à l'heure que les domestiques ne sont pas soumis au code du travail. Il y a une législation particulière sur les louages des services et cela n'est pas soumis aux procédures du contrat de travail en passant par la procédure préalable de conciliation devant l'inspecteur. Et il y a une législation particulière pour cela.
Maître Dominique, en cas d'engagement de procédure de licenciement, que doit faire l'employé?
En principe, lorsque l'employé est informé des fautes commises, on peut ouvrir une action disciplinaire et lui demander de s'expliquer, doit fournir ses moyens de défense.
Doit-il se faire assister d'un avocat?
Bon, au niveau de l'entreprise, la présence de l'avocat n'est pas exigée en principe, n'est pas autorisée, mais il doit se faire assister de la délégation syndicale au niveau de l'entreprise.
Maître Dominique Kamandou, de l'ONG Avocats sans frontières, je vous remercie.
Merci, Jody.